Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre dernière lecture du livre Le cerf-volant de Laetitia Colombani aux éditions Grasset, nous avons découvert le problème des mariages d'enfants arrangés par les familles. Janaki a 12 ans et celui qu'elle doit épouser a 21 ans. Lui a-t-on dit, il est un cousin éloigné. Janaki doit quitter son village et aller vivre dans sa nouvelle famille à quelques 100 kilomètres de distance. Ni l'un ni l'autre n'a eu son mot à dire et les choses doivent se passer ainsi malgré les interventions de Léna, de Kumar et de Priti. Ils sont tentés de faire temporiser la famille pour que Janaki puisse attendre encore un peu et finir des études. Mais rien n'a pu empêcher le mariage, ni le départ de Janaki. La vie de l'école reprend, mais un sentiment d'impuissance accable Léna. Reprenons notre lecture et voyons si Kumar et Priti arrivent à travailler ensemble plus facilement. Chapitre 22. Un élève manque à l'appel et toute l'école est dépeuplée. En classe, personne n'a le cœur à l'ouvrage. Sur la feuille d'émargement, Léna contemple le nom de Janaki sans parvenir à l'effacer. Elle se demande avec angoisse laquelle sera la prochaine sur la liste. Laquelle de ses écolières rentrera un soir chez elle pour découvrir que l'attend une belle robe, de beaux bijoux et un futur époux. 25 000 fillettes mariées de force, chaque jour dans le monde, a-t-elle lu. Un chiffre abstrait sur un bout de papier qui s'incarne aujourd'hui. Toutes ces petites filles ont maintenant un visage, celui de Janaki. Léna ne peut s'empêcher de penser à Lalita. La fillette aura 12 ans à la fin de l'année. Elle est désormais l'aînée de la classe. L'enfant qui jouait au cerf-volant sur la plage est en train de changer. Elle sera bientôt une adolescente. Cette perspective tourmente Léna. Elle se rassure en se répétant que James ne peut se passer du subside qu'elle lui a accordé pour rémunérer Prakash, le nouvel employé du Daba. Cet arrangement le rend dépendant de Léna et protège Lalita, se dit-elle. Depuis le départ de son amie, la fillette s'est renfermée. Elle se tient sur son coin de tapis triste près de la place de Janaki, restée vide à ses côtés. Lors des récréations, elle ne participe plus aux jeux de ses camarades comme elle en avait l'habitude. Elle demeure à l'écart, murée dans ce silence que nul ne parvient à percer. Pas même Léna. Celle-ci met ce changement d'attitude sur le compte de la peine et de la séparation. Elle sent pourtant qu'au-delà du chagrin, sa protégée a l'air inquiète, préoccupée. Cela passera, espère-t-elle, en s'efforçant de la réconforter. La vie de l'école reprend malgré tout. Léna déteste le sentiment d'impuissance qui l'accable, mais elle sait son champ d'action est limité. Elle ne peut changer le monde et doit l'accepter. Son pouvoir s'arrête aux portes de la salle de classe. Dérisoire enclave, pauvre bastion au cœur de ce village si attaché à ses traditions. L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne, a écrit René Char. Léna tente de s'accrocher à cette idée. À cette petite lumière qu'elle a voulu allumer, un minuscule lampion qui faiblit aujourd'hui, mais qui demain, espère-t-elle, retrouvera son ardeur et sa vivacité. Il faut continuer, ne pas se laisser entamer, reprendre la lutte au nom de ses enfants qui l'attendent chaque matin. Pour eux, Léna veut croire et espérer que quelque chose finira par changer. Afin d'écailler le moral de ses troupes, elle propose à Kumar et Priti d'organiser une sortie. Les élèves ont besoin de prendre l'air, de retrouver un peu d'insouciance après les événements. Ils n'ont pas vraiment d'occasion de s'extraire de leur quotidien. Elle suggère de voler quelques heures aux leçons de maths et d'anglais pour les amener pique-niquer au bord de la mer. Un peu égoïstement, elle espère aussi profiter de cette parenthèse pour se vider la tête et se changer les idées. Les écoliers accueillent la nouvelle avec enthousiasme. Le jour dit, ils se pressent dans la cour, impatients et surexcités. Radha a préparé des paniers repas. Priti a prévu des ballons. Kumar se charge des bouteilles d'eau. Lalita a demandé l'autorisation d'apporter son cerf-volant. Certains de ses camarades en font autant. Du nord au sud du pays, ces tétraèdres de papier ont le même succès. Ils sont souvent les seuls jouets dont les petits Indiens disposent pour se distraire. La plupart les confectionnent eux-mêmes à partir de vieux prospectus ou de pages de journaux. Un peu partout, des compétitions sont organisées. Dans les villages, les gamins n'hésitent pas à monter sur les toits des habitations pour faire voler leurs engins toujours plus haut. Il arrive parfois que certaines tombent et se brisent les os. Léna apprendra bientôt comment les plus farouches et les plus expérimentées cassent de vieilles ampoules pour enduire de poudre de verre le cordon de leurs appareils afin de couper les fils de leurs adversaires. De véritables duels se livrent ainsi, sans merci, dans les airs. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas à la rivalité, plutôt au partage, à la complicité. Léna voit les enfants courir autour d'elle sur la plage comme autant d'électrons libres affranchis de toute entrave. Ils jouent au ballon, au cerf-volant, défiant les vagues qui viennent les narguer. Ils entraînent leur professeur avec eux. Léna se surprend à s'amuser, à rire lorsque les plus jeunes entreprennent de l'éclabousser. Dans cette bulle hors du temps, elle se sent légère pour la première fois depuis bien longtemps. François disait vrai, songe-t-elle. Les pieds dans l'eau, les cheveux au vent, le bonheur ressemble à ça, même s'il ne dure qu'un instant. Elle ne peut s'empêcher de penser à Janaki, là-bas, dans le village de son mari. La veille, elle a demandé aux enfants de la classe de lui faire un dessin. Ensemble, ils ont rédigé une lettre à son intention pour garder le contact, lui dire qu'il ne l'oublie pas. Léna espère que ces mots la réconforteront, lui tiendront compagnie dans sa nouvelle vie. Ils seront désormais ses seuls amis. À la fin de la journée, personne n'a envie de rentrer. Il le faut pourtant. Les enfants réunissent leurs affaires et leurs jouets, tandis que Priti, Kumar et Léna récupèrent ce qu'il reste des paniers repas. La petite troupe reprend le chemin de l'école et longe le Daba pour y déposer Lalita. Depuis son altercation avec le patron, Léna n'y est pas retournée. Elle n'a plus envie d'y manger. Elle en veut à James et Mary de leur égoïsme, de leur lâcheté. Elle les soupçonne en outre de tirer quelques bénéfices de la somme qu'elle leur a concédée. Qu'importe, Lalita est libre d'étudier. L'essentiel est là, le reste ne l'intéresse pas. C'est en longeant le restaurant qu'elle l'aperçoit. Là-haut, sur la terrasse, un petit garçon de 10 ans, vêtu d'un sweat et d'un pantalon de survêtement. Il circule entre les tables, apporte les chats pâtis et débarrasse les plats. Il effectue les mêmes gestes que Lalita, on dirait le même film, seul l'acteur a changé. Lena se fige. James s'est joué d'elle. Il a gardé l'argent et s'est procuré une autre main-d'œuvre, tout aussi docile et bon marché. Le gamin ne touche aucun salaire, c'est évident. Il doit être seulement nourri et logé. Prise d'un accès de rage, Lena monte au daba, abandonnant Kumar et Pretty dans les rues avec les élèves. Lorsque James la voit débarquer hors d'elle, il se défend d'avoir voulu la duper. « Prakash me volait ?» prétend-il. « Il piquait dans la caisse. J'ai dû le renvoyer. » Lena se moque bien de savoir si son histoire est vraie. Le mal est fait. Pretty avait raison, se dit-elle, accablée. Elle a eu tort de conclure ce marché, de faire confiance au tenancier. Pauvre idiote. Elle s'est crue victorieuse, se félicitant d'avoir emporté la partie alors qu'elle n'a fait que condamner un autre petit gamin. Plus tard, elle apprendra qu'il s'appelle Ambu et qu'il est le fils d'un cousin de Mary. L'homme a reçu l'assurance que le gosse mangerait à sa faim et qu'il apprendrait un métier. Deux arguments suffisants pour un père de famille couvert de dettes et acculé. En quittant le restaurant, la mort dans l'âme, Lena surprend le regard de Lalita, en tenue d'écolière, sur le petit garçon qu'elle côtoie désormais. Ils partagent la même chambre chez James et Mary. Ils ont quasiment le même âge, mais n'auront pas la même vie. Lena comprend alors le tourment qui semble agiter la fillette depuis quelque temps. Son avenir a été acheté à crédit sur le dos d'un autre enfant. Lena s'enferme dans sa chute ce soir-là, seule et misérable. La vision d'Ambu a balayé en un instant les jeux sur la plage, les rires de ses élèves, les ballons et les cerfs-volants. Elle ne voit plus que cela, le visage de ce gosse qui jamais n'apprendra à lire, car il y aura toujours un tenancier avide et un père de famille désespéré pour le sacrifier et la servir. Le défi est trop grand, pense-t-elle. Elle se sent découragée. Comme Sisyphe, elle a poussé sa pierre tout en haut d'une montagne et la voit cruellement retomber. À Lalita a succédé Ambu. L'enfer ne finit donc pas. Chapitre 23. Entre Kumar et Pretty, l'ambiance reste tendue. Malgré les tentatives du jeune professeur pour engager la conversation, la chef s'obstine à l'ignorer. Elle fait comme s'il n'existait pas. De son côté, Kumar paraît désarçonné par son attitude. Après la classe, tandis qu'il corrige les cahiers, il passe de longs moments à l'observer durant l'entraînement de la brigade. Pretty n'est pas la plus jolie, mais elle dégage une aura et un charme singuliers. À la tombée de la nuit, elle enfourche son scooter, comme on chevauche un dextrier, et s'élance à travers les rues du quartier. Elle ne quitte que rarement son uniforme rouge et noir. Plus qu'un vêtement, il est une seconde peau, une identité. Un soir, alors que l'entraînement touche à sa fin, et que les filles se préparent à partir en maraude, Kumar s'enhardit et s'approche. Il se propose de les accompagner. Il connaît les sports de combat. Il pratique lui-même le Kalipayat, un art martial originaire du sud de l'Inde, utilisé depuis des années. Prit-il des visages méfiantes. Sur la défensive, comme toujours, elle répond qu'elle n'a pas besoin de son aide. la brigade est exclusivement féminine et entend le rester. Elle ajoute avec une pointe d'arrogance que le kalaripayat est un hobby pour les nantis et ne s'avère d'aucune utilité lorsqu'on est attaqué. L'instituteur sourit, mi-incrédule, mi-amusé. Le kalari est l'ancêtre des arts martiaux. Il a donné naissance au kung-fu et à bien d'autres disciplines. Les guerriers les plus émérites s'y sont entraînés des siècles durant. Mais Priti l'interrompt. Lorsqu'une femme se fait violer, les lancers de jambes ou les sauts périlleux ne lui sont d'aucun secours, pas plus que les postures de coq, de paon ou d'éléphant. Le niastrakala, qu'elle pratique, est peut-être moins élégant, mais plus adapté et bien plus efficient. À ces mots, elle s'apprête à s'éloigner sous le regard déçu de ses comparses qui enrôleraient volontiers le jeune professeur. Ce dernier ne s'en laisse pas compter. Nullement impressionné, il réplique qu'elle se trompe. Le kalari enseigne comment toucher les points vitaux de son adversaire, la pomme d'Adam, la nuque, le sternum ou la base du nez. Si elle en doute, il peut le lui prouver. Priti reste un temps silencieuse, avant de comprendre que la proposition n'est autre qu'un défi. Autour d'elle, les filles se sont tues, surprises de la tournure que prend la discussion. Priti ne tarde pas à riposter. Qu'à cela ne tienne, elle a affronté des tas d'hommes dans sa vie, et des plus effrayants que lui. Dans la salle de classe, Kumar et les filles dégagent l'espace en poussant le bureau contre le mur. Puis, l'instituteur retire sa veste et ses chaussures qu'il va soigneusement déposer dans un coin. Priti le regarde faire, ironique. Elle-même enlève son dupatta et sa tunique pour combattre en saloir et t-shirt. Les filles prennent place sur le tapis autour d'eux, en public impatient et curieux. Au milieu de l'arène ainsi constituée, Kumar et Priti s'avancent l'un vers l'autre. Ils s'observent, se jaugent, tels deux bêtes sauvages, deux fauves, dont nul ne peut deviner lequel attaquera le premier. Kumar ne quitte pas Priti des yeux. Il détaille son visage à l'affût du moindre tressaillement, du moindre battement de paupières qui pourrait annoncer l'offensive. Comme s'il respectait une forme de galanterie, il semble lui laisser la primeur de l'assaut. Priti ne se fait pas longtemps prier. Elle se jette sur lui, telle une lionne sur une proie qu'elle s'apprête à dévorer. Il s'empoigne, s'agrippe dans un emportement si vif et si intense qu'on ne peut distinguer ce qui appartient au corps de l'un et de l'autre. Kumar résiste, contrecarrant la puissance de Priti par des mouvements souples et habiles. Si la jeune femme est la plus forte, il se révèle le plus agile. Médusée, les filles suivent des yeux cet étrange ballet, dont se dégage une forme de sensualité par-delà la violence. La danse enfiévrée à laquelle ils se livrent pourrait passer pour une parade nuptiale, un accouplement sauvage et brutal, tel qu'on en voit parfois dans les documentaires animaliers. Kumar entrave Priti et la met à terre sans parvenir à l'immobiliser. Durant un bref instant, leurs visages sont si proches qu'on dirait qu'ils vont se toucher. Priti sent le souffle de Kumar sur sa peau. Elle paraît troublée, tout autant que lui. Profitant d'une infime seconde d'hésitation, elle se dégage brusquement de son étreinte et reprend l'avantage, le faisant tomber à son tour. Ils roulent ensemble sur le tapis, cramponnés, enlacés, sans qu'aucun des deux ne puisse arrêter leur course. Redoublant d'énergie, Priti se hisse enfin sur Kumar et, dans un ultime effort, pousse un cri de victoire. Autour d'eux, la troupe est en liesse. Les filles exultent et applaudissent. Kumar baisse les armes. La détermination et la hardiesse de Priti ont eu raison de lui. Beau joueur, il reconnaît sa défaite et s'apprête à se redresser lorsqu'un hurlement rauque retentit dehors. Tout le monde se fige. Ce qui vient de résonner n'a rien d'une exclamation de joie. C'est un rugissement effroyable, une plainte que l'on croirait venue d'ailleurs, où se mêlent à la fois la douleur et l'effroi. Kumar et Priti se précipitent, suivis des filles. Ils sont bientôt rejoints par Léna. Les cris proviennent de la cahute des parents de Janaki, qui jouxte quasiment l'école. Devant l'habitation, en bouse séchée, la mère de l'adolescente, la tête entre les mains, hurle comme jamais auparavant. Personne n'a entendu hurler. Sa voix semble jaillir du tréfonds de ses entrailles, d'un terroir intime et souterrain qu'on vient de profaner. Les gens du voisinage sont sortis de chez eux et assistent, impuissants, à la scène, tandis que le père de Janaki, éploré, tente de calmer sa femme sous les yeux de leurs enfants pétrifiés. En avançant, Léna sent son ventre se nouer. Elle comprend qu'une tragédie vient de s'abattre sur la famille. C'est une voisine qui annonce la terrible nouvelle. Janaki a été retrouvée morte dans un fossé. Elle a été renversée sur une route en pleine nuit, alors qu'elle tentait de fuir le domicile de son mari pour revenir au village. Léna vacille. Kumar et Priti se précipitent pour l'empêcher de tomber. La mère de Janaki les aperçoit tous trois à cet instant. Elle se met à proférer dans leur direction des phrases pleines de haine et de ressentiment. « Tout est de leur faute » hurle-t-elle. « S'ils n'avaient pas semé la graine de la révolte dans la tête de sa fille, Janaki serait encore en vie. Elle aurait accepté son sort. Comme elle-même l'a fait, et toutes les femmes de leur lignée avant elle. Elle les tient pour responsables de cette tragédie. Elle les maudit. Ces paroles transpercent Léna comme les balles d'un fusil. Priti voudrait répliquer, mais Kumar l'arrête d'un geste. Le temps n'est pas à la discorde. Mieux vaut laisser la famille à sa peine et rentrer. Pour une fois, la chef ravale son franc-parler. Ils s'apprêtent à regagner l'école, mais Léna ne bouge pas. Elle est anéantie, foudroyée. Elle a besoin d'être seule, dit-elle, besoin de marcher. Kumar et Priti insistent pour la raccompagner en vain. Ils n'ont d'autre choix que de la regarder s'éloigner dans les rues du quartier. Léna se réfugie près de la mer. Elle laisse dans son dos les restaurants aux enseignes colorées qui bordent le littoral, les boutiques d'artisanat et les camelots qui tentent d'attirer les touristes étrangers. Elle s'avance sur la plage jusqu'à un coin reculé que nul bruit ne vient troubler. Elle observe l'étendue sombre de l'océan devant elle, dont les contours s'effacent dans l'obscurité. Le décor n'est plus ce lieu paisible et familier qu'elle connaît pour l'avoir arpenté de jour. La nuit, c'est un territoire différent, insondable et bien plus inquiétant. Il suffirait de quelques pas seulement pour entrer dans l'eau et nager vers le large, pour se fondre doucement dans les éléments. La mort, Léna l'a maintes fois envisagée après le drame qui lui a pris François, mais il lui semble pourtant ne l'avoir jamais approchée d'aussi près. Sur sa peau, elle sent son souffle glacé, son haleine chargée d'embrun. Elle entend le bruissement de la marée qui pourrait l'arracher à cette rive et l'entraîner au loin. Elle ne résisterait pas, se laisserait amener jusqu'à la ligne d'horizon et au-delà. La vie ne tient qu'à un fil, se dit-elle. Si Lalita ne l'avait pas secourue ce jour-là, elle n'aurait jamais créé l'école. Et Jana, qui peut-être serait encore en vie. La mère de l'adolescente a raison. Léna a sa part de responsabilité dans sa disparition. Elle a eu tort de s'aventurer dans ce monde qui n'est pas le sien, tort de vouloir le changer. Jana qui a payé le prix de son ambition. Léna donnerait tout ce qu'elle a pour revenir en arrière, inverser le cours des choses. Elle doit s'effacer, disparaître, rendre la place qu'elle n'aurait jamais dû occuper. Pénétrée de ses sombres pensées, elle s'allonge sur le sable. Le voyage s'arrête là, se dit-elle au seuil de l'immensité. Elle n'a plus qu'à fermer les yeux et attendre la marée. Elle n'a pas peur, elle est prête. Elle sait que François viendra la chercher. C'est alors qu'elle la voit, là, tout à coup, devant elle. Une femme à la peau brune, chargée d'un panier. Ses yeux brillent dans l'obscurité. Elle se penche et lui glisse quelques mots à l'oreille dans une langue que Léna ne parle pas, mais qu'elle semble étrangement comprendre. Elle lui dit que son heure n'est pas encore venue, que sa mission n'est pas terminée, que son chemin est jalonné d'épreuves, mais qu'elle ne doit pas s'en écarter. Cette femme, Léna ne l'a jamais rencontrée, mais elle la connaît. Elle aussi vient de loin. Elle a entrepris un long voyage pour arriver ici, dans cette région où, l'espérait-elle, sa fille aurait une meilleure vie. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour Lalita. Elle veille sur elle de là où elle est et lui a envoyé Léna. Celle-ci ne peut faillir maintenant. Elle doit l'accompagner, la protéger, tenir parole, honorer son serment. Après quelques mots murmurés, l'inconnu se redresse et commence à s'éloigner. Léna voudrait la retenir, mais ne parvient pas à bouger. Elle regarde la silhouette s'évanouir dans la nuit, tandis qu'une main se pose sur son épaule et vient l'éveiller. Chapitre 24. Léna ouvre les yeux sur la plage. Elle paraît désorientée, comme au retour d'un long voyage, d'une étrange traversée. Penchée sur elle, Lalita la fixe de ses grands yeux noirs. Cette scène, Léna se rappelle l'avoir déjà vécue le jour où tout a commencé. Inquiets de ne pas la voir à l'école ce matin, Kumar et Priti sont partis à sa recherche. C'est Lalita qu'il a finalement retrouvée allongée sur le sable, à l'endroit même où elle s'était rencontrée. En se redressant, Léna ne dit rien. Elle n'évoque ni son rêve, ni la femme au panier. Aux yeux rougis de Lalita, elle devine qu'elle a appris pour Janaki. La petite enfouit son visage dans son cou et reste longtemps contre elle, à pleurer son amie. Les semaines qui suivent, Léna dérive et sombre. Ses cauchemars reviennent la hanter. Elle se réveille tremblante, saisie de visions terribles. Le corps de François étendu sans vie au milieu d'une mer de sang dans le hall du collège. Et juste à côté, celui de Jeanne qui, Léna, est prise d'attaques de panique. Elle a du mal à respirer. Elle se bourre de cachets pour tenir. Elle donne le change, mais le gouffre est là qui l'aspire. En classe, elle ne veut rien montrer. Tel un bon petit soldat, elle s'efforce de boucler le programme d'anglais, se fait passer les évaluations de fin d'année. Et la kermesse initialement prévue avant les grandes vacances, mi-avril, est finalement annulée. En de telles circonstances, personne n'a le cœur à s'amuser. Pour marquer la fin des cours, Léna convie les familles à l'école afin de leur montrer les travaux des enfants. Une exposition de dessins est organisée. Les élèves récitent des poèmes, entonnent des chants. À la surprise de tous, le petit Cédou s'est porté volontaire pour interpréter l'un d'eux. Léna sent un frisson la parcourir, tandis que sa voix claire s'élève dans les airs. Une voix d'ange, tutoyant d'autres anges, bien au-dessus de l'assemblée, au-delà des toits du quartier. La gorge nouée, Léna félicite les écoliers pour leur travail. Elle leur recommande de continuer à lire durant leurs 2 mois de congé, puis les regarde s'éloigner. Elle n'a pas le courage de leur dire qu'ils ne reverront pas Léna à la prochaine rentrée, qu'elle a décidé de regagner la France et de ne pas revenir. Priti avait raison. Personne n'en est fait pour vivre ici. L'Inde a vaincu son endurance et sa volonté. La mort de Janaki a balayé l'enthousiasme, l'énergie, le plaisir d'enseigner qu'elle était parvenue à retrouver. Certes, elle a connu des joies et des satisfactions, mais le prix est trop lourd à payer. Personne n'est encore au courant, pas même Priti. Léna s'en veut de sa lâcheté qui l'a fait chaque jour repousser le moment de parler. L'essentiel est que l'école perdure, se dit-elle pour se rassurer, ou peut-être d'une certaine façon pour se dédouaner. Kumar et Priti prendront le relais. Ils ont assez d'expérience aujourd'hui pour assumer ses fonctions. Du moins, veut-elle s'en persuader. En outre, l'ambiance entre eux s'est détendue. L'attitude de Priti a changé. Elle n'évite plus son collègue, on dirait même qu'elle apprécie sa compagnie, ce dont elle se défend naturellement. Léna les surprend parfois, après la classe, en train de tester une prise de Nishaktrakala ou une posture de Kalari. Pour justifier ce revirement, la chef Arg coucha elle-même s'entraîne avec des hommes. Pourquoi donc s'en priver? À voir leur peau se frôler, leurs mains s'empoigner, leur souffle se mêler, Léna devine que cette lutte n'est peut-être que l'avant-goût d'une autre étreinte, d'une autre danse, d'une autre fièvre à laquelle ils finiront par s'abandonner, lorsque la carapace de Priti cédera tout à fait. La veille de son départ, elle les convie dans un petit restaurant qu'une fille de la brigade lui a recommandé. Ici, tous n'accueillent pas les Dalits. Certains refusent de les servir. Léna leur annonce qu'elle s'en va et ne reviendra pas en juillet. Elle a besoin d'une pause. Bien sûr, elle continuera à les aider, à les conseiller à distance. Elle s'occupera des financements, s'assurera que les subventions leur sont versées. Elle sera là en cas de besoin, à leur côté. Kumar ne sait que dire fidèle à son habituelle réserve, il reste muet. Priti, quant à elle, peine à contenir sa colère. Elle désigne Léna en tremblant. « Tu nous as entraînés avec toi et maintenant tu nous laisses tomber ?» lui lance-t-elle. Léna reçoit la phrase comme une gifle. Elle tente de se justifier, mais cela ne fait qu'exaspérer davantage la jeune femme. « T'es venue te changer les idées, t'as pris ce qui t'intéressait et tu repars chez toi. Je pensais te connaître, mais je me suis trompée. En fait, t'es comme les autres étrangers. » À ces mots, Priti se redresse et désigne durement la sortie. « Tu peux partir, vas-y. On n'a pas besoin de toi. Casse-toi, dégage !» Kumar lui fait signe de se calmer. Dans la salle, tous les regards se sont tournés vers eux. Le patron s'apprête à intervenir, mais il n'en a pas le temps. Priti se lève brusquement et quitte l'endroit. Kumar s'élance à sa suite, abandonnant Léna, qui se retrouve seule à table et bouleversée. Toute la nuit, les mots de Priti tournent dans sa tête. Léna sait que son amie a raison, qu'elle trahit son projet et sa parole en démissionnant ainsi. Elle a honte de n'avoir pas le courage de ses idées. Elle se sent comme le capitaine d'un bateau qui s'enfuit en laissant son équipage couler. Malgré les liens qu'elle a tissés avec Priti et tous les moments qu'elles ont partagés, Léna n'a jamais évoqué son passé. Elle n'a pas raconté le drame ni la blessure qu'elle a tenté de colmater en venant ici et que la disparition de Janaki a ravivé. Par pudeur peut-être, ou par fierté, par déni aussi. Elle a préféré taire ses souffrances, pensant qu'elle pourrait les tenir à distance. Il est trop tard pour revenir en arrière, à présent, trop tard pour les confidences. La veille, elle est allée embrasser Lalita. Elle a longuement contemplé son visage, sa silhouette qui n'est plus celle d'un enfant. Depuis leur rencontre sur la plage, plus de 2 ans ont passé. La petite fille au cerf-volant s'est transformée. Elle est belle, si belle avec ses grands yeux noirs, ses cheveux longs et tressés. Elle sait maintenant écrire couramment en tamoul et en anglais. Elle ne se sépare jamais du carnet que Léna lui a offert. Il est devenu l'indispensable outil qui la relie au monde. Elle communique ainsi par le truchement des mots qu'elle y inscrit. Elle demeure silencieuse. Mais Léna garde espoir. Un jour, elle retrouvera sa voix. Elle veut y croire. Dans quelques années, elle obtiendra le baccalauréat. Elle se l'est promis et retournera là-bas, dans le nord du pays, revoir son père. C'est là son vœu le plus cher. Au moment de partir, Léna a glissé une feuille de papier pliée en 4 dans son carnet. Elle savait qu'elle n'aurait pas le courage de lui dire au revoir. Alors, elle le lui a écrit. Une longue lettre que l'adolescente pourra lire et regarder. Des mots pour dire qu'elle est désolée, qu'elle l'aime comme sa fille, mais qu'elle ne peut pas rester. Qu'elle la laisse entre de bonnes mains avec Kumar et Priti. Qu'auprès d'elle, elle est en sécurité. Elle ajoute qu'elles se reverront un jour. Elle le lui promet. Au matin, Léna quitte la cahute, sa valise à la main. En refermant la porte, elle est prise d'une étrange impression. Est-elle en train de partir de chez elle ou au contraire de rentrer chez elle? Elle ne sait plus. Elle est une apatride, une exilée, une âme perdue entre 2 mondes, qui nulle part n'a trouvé sa place. Le cœur serré, Léna monte dans le taxi qu'elle a commandé, tandis que celui-ci l'emporte, elle tente de ne pas regarder par la fenêtre la silhouette de l'école qui décroît rapidement et bientôt disparaît. La fin de notre lecture est endeuillée par l'annonce de la mort accidentelle de Janaki. Elle a été trouvée morte dans un fossé, ayant été renversée par une voiture sur une route en pleine nuit, alors qu'elle tentait de fuir le domicile de son mari et de revenir au village de ses parents. La mère de Janaki se met à proférer des propos haineux contre le trio Lena, Kumar et Priti, les rendant responsables de cette tragédie. Lena est anéantie, culpabilisée. Elle envisage de rentrer en France. Et les paroles de Priti, toujours rapides dans ses réactions, n'y sont pas pour rien. Priti reproche à Lena de ne pas être meilleure que les autres étrangers de passage. Elle les a trahis. Chers auditeurs, pensez à écouter la suite du livre en écoutant l'émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus 103.2, FM et DAL Plus. En direct les mardis et mercredis 21h30 et rediffusion lundi et mardi à 6h. Ou écoutez les podcasts de tous les livres enregistrés dans cette émission sur le site de la radio. À bientôt pour suivre le livre lors de nos prochaines éditions.